Bonsoir. Bonsoir. Parlement, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est déroulée hier sans les députés de l'opposition. Ces derniers ont préféré sécher la plénière. Nord Kivu, la situation militaire au Nord Kivu est revenue à la normale après des désertions constatées dans les rangs des FRDC depuis le 31 mars dernier. Beaucoup d'officiers ayant déserté les FRDC dans les territoires des Rutshuru sont revenus au sein de l'armée nationale. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du journal Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bonsoir, magazine Les Échos de la région des Grands Lacs.
Merci pour la précision. Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Mathieu.
Et Jean-Baptiste Badera, directeur des canaux Future Télévision Sud Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kivu.
Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et reddition de certains militaires qui avaient fait défection à l'est du pays. Écoutons cette revue de presse que nous présente Kéline Couté pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le potentiel annonce Obaminaku au perchoir de l'Assemblée nationale. Le quotidien rapporte que le député national Obaminaku a été élu hier jeudi président de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Le poste du premier vice-président revient à Charles Mwando Simba. Celui du deuxième vice-président est confié à un député de l'opposition. Il s'agit de l'honorable Timothée Kombo, signale le confrère. Peu avant le vote, relève le journal, un climat de tension a été observé dans la salle. Et selon le potentiel, les députés de l'opposition dénonçaient leur noyautage par leurs collègues de la majorité. Et c'est sur ces entrefaites que la prospérité titre « Malgré le courroux de l'opposition », Obaminaku, Mwando et Kombo sont commandes de l'Assemblée nationale. Comme il fallait s'y attendre, constate la consoeur, il n'y a pas eu suffisamment de surprises dans la soirée d'hier jeudi 12 avril au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple. Pour la prospérité, la page est ainsi tournée pour les vacances au perchoir. La majorité qui joue à la redistribution des cartes doit aller jusqu'au bout de sa logique en mettant sur pied un gouvernement en vue de mettre fin au régime des intérimaires, renchérit le journal. Quittons l'Assemblée nationale pour parler de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu. L'avenir titre Joseph Kabila instruit Didier Toumba à sanctionner les militaires indisciplinés. Quant au potentiel, toujours dans le même registre, titre ce journal Kabila à Goma pour se rendre compte de la situation sécuritaire. Le président de la République séjourne à Goma au Nord Kivu, question de voir clair et remettre de l'ordre sur les mouvements irréguliers d'éléments armés incontrôlés dans cette province. Autre sujet qui a fait l'actualité pendant la semaine, c'est l'évaluation de la CENI ainsi que l'élimination des trois équipes de la RDC à la compétition africaine.
Merci Kéline Couté. Un petit commentaire, Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le durcissement de la grève des médecins.
On s'y attendait, c'est devant ce micro, l'année dernière, que j'ai dit que ce n'était que partie remise, parce que les médecins à l'époque avaient dit qu'ils n'avaient que suspendu leur grève en attendant que les promesses du gouvernement soient réalisées. Ce qui devait arriver est arrivé. Les médecins ont repris leur grève qu'ils n'avaient que suspendu. Je me rappelle à l'époque, le Premier ministre Mouzito ou les gens qui sont autour de lui, la presse qui était autour de Mouzito avait titré « Triomphe de Mouzito » pour avoir désamorcé la grève des médecins. Et les médecins, à la sortie de l'audience du Premier ministre, le ministre Mouzito avait dit qu'il n'avait que suspendu la grève.
Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est l'élimination des compétitions africaines des équipes congolaises, à savoir Vitaclub, Chinkunku et Lupopo.
Oui, je déplore cette situation qui est généralement due à l'impréparation, au manque de moyens logistiques et même au conditionnement moral de nos joueurs. Et que cela soit dit en passant, je voudrais quand même au début de cette émission en profiter pour rendre hommage à un confrère qui nous a quittés.
On va y revenir.
Okay.
Jean-Baptiste Badera, directeur des canaux Future Télévision Sud Kivu, qu'est-ce qui domine l'actualité à Bukavu, Sud Kivu?
Merci, Dumaté. L'actualité, comme vous l'avez dit et comme Kelly l'a lu dans la revue de presse, ce sont les défections en cascade au sein des forces armées de la République démocratique du Congo au sud Kivu, notamment dans les territoires d'Ouvira et de Fizi, où on a cité à Paris spectacle. Et alors là, il y a donc le fait qu'il y a même des combats qui ont été signalés dans les moyens plateaux du territoire d'Ouvira qui ont placé la population du territoire dans une situation très très difficile, hein, au point même que certains étaient même tentés de fuir le territoire. Donc c'est ça la situation qui a prévalu dans cette partie de la République démocratique du Congo, et cela a connu le chef de l'État, Joseph Kabila, à venir au sud qui vous pour se rendre compte de la situation et prendre des mesures en rapport avec cette situation, notamment la suspension de certaines opérations militaires qui étaient en cours dans la province du Sud qui vous dimatait.
Avant d'aborder notre premier thème, nous allons commenter cette actualité. Comme vous le savez, Freddy Monsa Iyakaduku, directeur de publication du groupe Le Potentiel, s'est éteint samedi 7 avril dernier à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, des suites d'un arrêt cardiaque. Benoît Kambéré, vous avez connu ces journalistes chevronnés Freddy Monsa. Et quel est le souvenir que vous avez gardé de lui?
Cette grande plume qu'il faut, le dire.
Il faut le souligner.
Absolument. Moi, j'ai connu Freddy Monsa au début de mes pas dans les journalismes. C'était au journal Elima, quand j'étais en stage au journal Elima à l'époque. Déjà, à cette époque, c'était un grand...
Ça, c'est la décennie 90.
Absolument. Et Freddy Monsa, la page étrangère, par exemple, qu'il maîtrisait, ça donnait envie. Avant, on ne lisait pas l'actualité étrangère dans les journaux locaux, mais quand Freddy Monsa prenait sa plume et faisait la page internationale, c'est vraiment un grand... Il a façonné pas mal de jeunes. Hein, qui ont eu goût à cette page étrangère et à l'écriture. Après qu'il ait quitté Lima, il est allé dans d'autres grands journaux pour terminer par le plus grand quotidien local qui est Le Potentiel. Vraiment un grand monsieur. Je n'oublierai pas ce grand monsieur de la presse congolaise, de la presse écrite congolaise.
Merci. Marcel Ngoyi, vous avez connu aussi cette grande plume qu'était Freddy Monsa. Quel est le souvenir que vous avez gardé de lui?
Le dernier souvenir, c'est à 3 jours de sa mort que nous nous sommes croisés dans une société de la place qui nous avait conviés à une réunion de stratégie. Nous nous sommes rencontrés, en effet, c'est mercredi-là, après-midi, et on a passé 1h30. Et pendant 1h30, nous, Chevalier de la Plume, avec tout ce qu'il y a comme actualité brûlante au pays, nous ne pouvions qu'échanger. Nous ne pouvions qu'essayer de discuter sur les enjeux tels que le profil du Premier ministre, le profil de celui qui devait prendre le choix du Parlement. Donc nous avions eu un échange. Et là, dans l'au-delà où il se trouve, moi je crois que je suis fondé aujourd'hui à lui rendre hommage, à profiter de ces micros que vous me confiez, que me confie Radio Okapi, pour vraiment présenter à sa famille, ainsi qu'au potentiel, mes condoléances les plus attristées. Mais j'estime que c'est un grand, c'est une grande plume, c'est une grande perte pour la presse congolaise.
Merci. Jean-Baptiste Badera, certainement que vous avez connu Freddy Monsa. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris sa mort?
C'était vraiment une grosse déception. Je ne l'ai pas connu physiquement, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui au téléphone. C'était un jour dans les territoires de Fizi, à Baraka précisément, où on devait couvrir le retour des réfugiés congolais vivant en Tanzanie avec certains journalistes kinois qui sont venus, congolais qui est bien sûr de confrères de Kinshasa. Je me rappelle qu'à un moment, il voulait faire un papier et c'était référé à notre confrère qui vient de nous quitter.
Freddy Monsa.
Pour avoir trouvé Freddy Monsa, pour trouver un bel angle en rapport avec le dossier qu'on devait traiter à Baraka Fizi. C'est à cette époque-là que moi, je l'ai connu. On a parlé avec lui au téléphone. J'ai connu pas mal de gens du potentiel qui souvent me parlaient de lui. Et j'ai gardé toujours de bons souvenirs et c'est vraiment avec tristesse qu'on a écrit cette nouvelle. Donc, toutes nos condoléances à la famille et aux proches de notre confrère de potentiel.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Parlement, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est déroulée hier sans les députés de l'opposition. Ces derniers ont préféré sécher la plénière. Une décision qui est intervenue après tractation et remis ménage au sein de l'hémicycle. En effet, un nombre important de députés de l'opposition s'est insurgé contre ce qu'ils qualifient d'imposition de la part de la majorité des candidats non alignés par l'opposition position au poste qui lui reviennent des droits. Cependant, ce n'est pas tous les opposants qui ont quitté la salle. Entre-temps, pour la majorité, c'est le jeu démocratique qui est respecté. Jacques-Yves pour les détails.
Il est minuit juste lorsque ces trois coups de marteau, symbole du pouvoir, ont retenti à l'hémicycle. Ce sont les premiers coups du nouveau président élu, Aubin Minaku. Bien avant, dans une salle archi-comble, sous le poids de l'heure, dans la nuit, le président du bureau provisoire s'est évertué à parachever son travail. Timothée Kombokissi.
Le candidat Minaku est proclamé élu président du bureau de l'Assemblée nationale.
Vient ensuite le tour des autres élus. Charles Mwando Simba, premier vice-président. Kombokissi, deuxième vice-président. Ezadri Norbert, rapporteur. Chimanga Bwana, rapporteur adjoint. Mounemboué, Élisée, caisseur. Et Kaboyi, Jean Bosco, caisseur adjoint. Dans son mot de circonstance, le nouveau président n'a pas manqué de tracer la nouvelle ligne directrice aux élus du peuple. Robin Minaku.
Ensemble, notre assemblée pourra devenir forte et moderne si nous prenons l'engagement ferme de travailler dans le respect du temps. Nous voulons simplement en appeler au sens du rythme du travail, de l'assiduité au travail, de la ponctualité aux réunions.
Notons qu'avec l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est le décollage des autres institutions du pays. Seulement, ces élections se sont déroulées sans un nombre important des députés de l'opposition.
Et donc, à Mbéré, l'Assemblée nationale a fin doté de son bureau définitif. Votre réaction ?
Enfin, comme tu dis, Guy, enfin, l'Assemblée nationale est dotée d'un bureau définitif. Tout à l'heure, dans la revue de presse de Kelly, et toi-même, tu en as parlé en introduction, tu as parlé de l'élection du bureau définitif. Je crois qu'on peut faire l'économie des mots. On ne peut pas parler d'élection en ce qui concerne ce bureau. Parlons plutôt de désignation du bureau définitif, parce que...
La nuance, vous établissez à quel niveau ?
Tout simplement, à titre d'exemple, le nom de Aubin Minaku circule depuis plus de 2 mois. Tout le monde savait que c'était le président désigné. On pouvait faire l'économie de cette campagne électorale tapageuse qu'on a vue au Palais du Peuple pour rien. J'ai vu des mamans, des papas, des hommes et des femmes par centaines passer des journées entières devant le Palais du Peuple en train de danser, de chanter. On a vu des écrans géants. On pouvait faire l'économie de cette campagne inutile.
Mais ce n'est pas parce que les noms étaient connus qu'il ne devait pas battre campagne.
Avec des SMS, on peut, à titre d'exemple, entrer en contact avec tous les 450 députés. Tout cet argent qu'on jette par la fenêtre, on le jette pourquoi ? Parce que d'abord, il était candidat unique. On n'avait qu'à l'applaudir. Un point, un trait, il était désigné. On n'avait pas besoin de faire...
Mais en dépit de cela, c'est une élection.
Bon, une élection mascarade.
Bon, c'est votre point de vue. Marcel Ngoï, peut-on dire que la configuration de ces bureaux était déjà connue parce que même Benoît vient de les relever. Les noms de certaines personnalités qui se retrouvent dans ces bureaux étaient déjà connus. Ça a circulé dans la presse depuis une semaine.
Oui, Benoît a fait, laissez-moi rire, et c'est bien d'animer une émission comme celle-ci avec Benoît. Je dis tout simplement que l'élection est consacrée par la Constitution. Et c'est le passage obligé. On ne peut pas, n'est-ce pas, même si on veut faire l'économie des mots, parler de simples désignations. Mais la désignation existe, bel et bien, parce que on a affaire à la majorité. Cette majorité, elle a une discipline verticale. Donc il y a un centre qui impulse et les autres sont là pour exécuter les orientations. Aujourd'hui, le centre a décidé, vous le savez, c'est depuis Kinkakati, il y a eu une réunion au cours de laquelle on a demandé à ses députés de respecter une certaine discipline. Et c'est le chef de l'État lui-même, en personne, qui dirige, qui est le vrai commandant des troupes dans cette affaire. Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle ici cette discipline de groupe, discipline au sein de la majorité, et donc les tickets qui a circulé, dont le nom d'Aubin Minaku était en tête, c'est un ticket connu depuis plusieurs jours. Donc hier, c'était pour formaliser, pour rendre constitutionnel. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a évité d'espacer la cérémonie d'installation. On l'a fait immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter ces petits vides avec tout ce qu'on a eu comme situation avant cette élection. Donc je comprends très bien les inquiétudes. Les vraies inquiétudes résident dans le fait que l'opposition ait boudé, et il claquait la porte. Mais à qui la faute? Parce que le fait de quitter la salle n'a pas empêché cette majorité de continuer. Nous avons une assemblée constituée aujourd'hui de 482 députés sur les 500 parce qu'il y a 18 postes à pourvoir. L'opposition paye le frais de sa désignation. L'opposition paye le frais de sa désorganisation. Ce n'est pas le jour de, quand il y a des enjeux qu'il faut se réveiller pour dire mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, c'est consommé. Moi, je pense que il faut que les gens apprennent à se préparer à temps, à organiser leurs forces à temps, à cogiter à temps. Il faut pas se réveiller aujourd'hui. Mais je déplore tout de même que lorsque l'UDPS se réunit, on désigne une personne et que ce n'est pas cette personne désignée par l'UDPS qui est retenue. Mais je pouvais accepter encore à la limite qu'il y ait plusieurs candidats de l'UDPS et que lors de l'élection, que l'un d'eux puisse réussir.
Il y a deux candidats de l'UDPS au poste
de vice-présidence. Mais il y a un présenté et appuyé par la famille à laquelle l'UDPS n'appartient pas. Donc la famille de la majorité. Et c'est là qu'il y a entorse. Parce qu'en fait, cette entorse détruit ce qu'on appelle l'embellie démocratique. Le jeu démocratique n'a de sens que quand on observe pour des décisions importantes comme ça un minimum de consensus. On l'a vu pendant la transition. On ne pouvait pas enfreindre, continuer à casser cela. Ça détruit l'embellie.
Jean-Baptiste Badera, pourquoi, à votre avis, l'opposition ne s'est pas mise d'accord sur les tickets qu'elle devait présenter? On a vu deux candidats de l'UDPS pour un même poste, un candidat ADR et un autre MLC pour un même poste. Et comment vous analysez cela? Peut-on comprendre cela par cette opinion selon laquelle l'opposition est plurielle, qu'elle ne parle pas le même langage? Marcel Ngoya a même parlé des désignations.
Oui, quand on dit que l'opposition est plurielle, je pense que on a tout à fait raison au vu de la situation à laquelle on assiste en République démocratique du Congo. On est d'abord surpris d'entendre ou d'avoir entendu qu'il y avait deux candidats de l'UDPS pour le même poste, alors qu'on sait que depuis un an, l'UDPS n'a pas été d'accord pour participer au débat au sein de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Déjà une grosse déception, d'autant plus que l'UDPS, c'est le premier parti politique de l'opposition. Le deuxième parti politique, c'est l'EMLC. Et le troisième, c'est l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. Mais on est surpris de voir que les gens qui ont été désignés ou qui ont été nommés et votés hier, ce sont les gens, il y a un ADR de François Mambachkwa, il y a un autre de l'UDPS qui faisait déjà office du président intérimaire de l'Assemblée nationale. Alors, cela étant, force est de constater qu'il y a vraiment ce qu'on peut qualifier de confusion au sein de l'opposition à la République démocratique du Congo. On a commencé d'abord par l'UDPS. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Parce que c'est assez qui devait impulser, devait donner la force pour qu'on comprenne exactement ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a comme discussion au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'il y a comme discussion au sein de l'opposition. Mais là, on ne sent pas, on n'entend pas les voix se lever pour dire exactement ce qui se passe dans ces grands partis politiques de l'opposition. Et deuxième chose, on est tenté de croire que les gens de l'opposition qui font partie de cet actuel bureau ont été seulement désignés. Timothée Kombouki ici a été désavoué par ses pairs, il y a également celui de l'ADR. En tout cas, ma connaissance, je me rappelle avoir séjourné à Kinshasa au dernier trimestre de l'année dernière et je n'ai pas eu assez d'informations par rapport à l'appartenance de l'ADR de François Mamba à l'opposition. Ça, c'est une nouvelle opposition. Donc là, il faut noter non seulement que l'opposition par à nous disperser par rapport aux enjeux politiques actuels, mais également il faut dire que la majorité profite de cette situation pour inciter cette opposition et alors proposer ce qu'elle veut à cette opposition qui ne sait pas en tout cas faire un bloc pour affronter les enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo, tel qu'on a par exemple au Sénégal. Certes, là il y avait le premier tour qui était dispersé avec les différents candidats de l'opposition, mais le deuxième tour était soudé autour d'un même idéal. Ce qui manque à l'opposition actuelle à la République démocratique du Congo, mais cela étant, il n'y a pas lieu d'espérer grand-chose dans cette nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, comme l'a dit d'ailleurs mon confrère Benoît Cambéry. Il s'agit pure et simple de désignation. Certes, on a fait des élections hier, mais il est gagné en avance par les partis de la majorité au pouvoir.
Benoît Cambéry, avec l'élection de Timothée Kombokissi à la deuxième vice-présidence, est-ce qu'on ne risque pas de voir les 40 députés UDPS qui siègent au sein de l'Assemblée nationale siéger tout en étant divisés?
Ben oui, la division est déjà là. Les 40 qui siègent à l'Assemblée nationale, Marcel l'a dit, ont désigné Badibanga. comme candidat de l'opposition.
Vous voulez dire qu'il y avait unanimité sur la candidature de Badibanga?
Absolument! Absolument! C'est Badibanga qui a été désigné par ceux qui sont au Parlement. Et c'était au cours d'une réunion. La réunion s'est tenue à côté. Ceux qui sont au Parlement, l'opposition parlementaire, a dit que les députés UDPS qui sont au Parlement, même désavoués par leur parti, constituent la majorité. Et c'est à l'UDPS qu'on donne le soin de désigner, je me fais comprendre, de désigner celui qui va concourir pour ce poste-là. Et au MLC, qui est la deuxième force, Jean-Baptiste l'a dit, la deuxième force de l'opposition au Parlement. Après vient l'UNC. Si c'était réellement à l'opposition, la loi, le règlement d'ordre intérieur a été renvoyé par la Cour suprême parce qu'on a dit non, attention, maintenant c'est une innovation, on sait que l'opposition va siéger et tout et tout. Mais qu'on laisse l'opposition désigner ses membres, comme la majorité a si bien désigné ses membres.
Et qui a désigné Timothée Kombokisi?
En tout cas, ce n'est pas les 40, les députés de l'UDPS qui sont au Parlement.
Si ce n'est pas les députés de l'UDPS, vous voudrez dire que c'est la majorité?
Vous l'avez dit.
Mais avec quel intérêt?
Ben, tout simplement pour faire un bureau monocolore. Pourquoi changer le règlement d'ordre intérieur et dire qu'il y aura des députés de l'opposition? C'est plus simple de garder le bureau du Parlement tel qu'il était, comme on a tout gagné. Comme on prétend avoir tout gagné, qu'on garde tout, qu'on désigne les membres à tous les niveaux, un point, un trait. Non pas dire, j'ai entendu des analystes, j'ai entendu des hommes politiques dire, c'est une innovation, désormais l'opposition sera au bureau, désormais l'opposition avait même 3 places. Et à cause de ces 3 places, on a dit qu'une place allait partir aux indépendants. Les indépendants qu'on voit tous à Kingakati. Mais on a vu que même les 2 places de l'opposition... C'est l'AMP qui a désigné les membres pour l'opposition. Ça sert à quoi? Ça, c'est déjà un bon départ, un bon signe pour dire quel sera ce Parlement, malheureusement, aux ordres.
Marcel Ngoï, l'on a constaté que même au sein de la majorité, il n'y a pas eu unanimité sur certains postes. C'est comme celui de la vice-présidence.
Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, même si la discipline dont je parlais tout à l'heure fait école au niveau de la majorité. Le vrai problème, je pense que au niveau de l'opposition, par exemple, pour en renforcer ce que Benoît disait tout à l'heure, Monsieur Badibanga, 17 voix au cours de la réunion de désignation au sein de l'UDPS, alors que Monsieur Kombo n'a eu que 8. Il y avait un autre, je crois pas Luku, qui avait 3. Alors ça c'est un vote interne, mais cela n'interdit pas à un député de déposer sa candidature. Donc les députés, chaque député a droit de postuler. Donc il peut, même tout en n'étant pas d'accord avec les membres de son parti, il peut poser sa candidature. Autrefois, M. Modeste Bahati, au niveau même de la majorité, il s'agissait de revoir la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Bahati fut questeur à l'époque. Des réunions s'étaient tenues autour de Kabila. Mais Bahati avait persisté jusqu'au point de se présenter individuellement. Et pour ça, d'ailleurs, il a fait, face à Bolingetenge, il a eu
un
bon score. Parce qu'il s'est battu seul. Donc, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de parler de l'interdiction qu'il fallait faire à tel ou tel autre. Mais j'ai dit tout simplement qu'il faut un minimum d'organisation. Et si nous avons besoin d'une législature de qualité, il faut que les hommes de qualité animent cette législature. Donc, lorsque nous sommes dans une démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition, il faut que les règles de jeu quand même soient respectées. Si tout le monde règle sa vie comme il veut, alors tout va se dérégler.
Jean-Baptiste Badera, l'opposition a séché la plénière et elle dit, et ça c'est Jean-Lucien Boussa qui est député MLC, et il dit nous laissons à la majorité la responsabilité d'assumer ses charges, et tandis qu'à la majorité on considère cela comme l'expression de la démocratie. Votre analyse?
Et là, moi je pense que c'est tout un problème au niveau de l'opposition. J'ai comme impression que l'opposition n'a pas tous les moyens de sa politique. Et que donc, avec ce qui se vit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est encore une fois l'opposition qui sera perdant dans ces matchs, tout simplement par le fait que non seulement l'opposition n'est pas unie, mais aussi la majorité profite de cette désunion pour pénétrer cette opposition et tirer l'épingle du jeu. Je pense que tout compte fait, il faut que le leader de l'opposition puisse se réfléchir et voir comment ils peuvent avoir tout le poids nécessaire pour maîtriser les troupes, parce que c'est là le grand problème. Mais ce qu'on constate aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale nous laisse croire que vraiment ça sera presque une continuité, ce qu'on a vécu les trois dernières années au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout compte fait, c'est certain que la majorité aura toutes les décisions. Quand on voit par exemple les postes qui ont été réservés à ce que certains partis de l'opposition qualifient de soi-disant opposants, il y a d'abord la troisième vice-présidence,
et il y a la deuxième vice-présidence.
Je crois le vice, le rapporteur adjoint
voilà.
Qui est de l'ADR, qui, on ne sait pas exactement hein, si c'est exactement l'opposition, c'est quoi exactement. Et on voit tous les postes essentiels sont réservés à la majorité. Donc, c'est encore du tourisme que certains membres de l'opposition
merci.
Vont faire au sein de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale.
Benoît Kamberé, après l'installation de ces bureaux définitifs, il va logiquement s'en suivre la nomination du Premier ministre. Il y a un président de l'Assemblée nationale, PPRD. Vous voyez un PPRD à la primature ?
Avant d'y arriver, je m'en voudrais de ne pas placer deux petits mots. Le premier mot, c'est sur la géopolitique. Le bureau a été constitué. Le passage en force a fait que la province de l'Équateur, l'espace Ngala, n'est pas représenté. La province de Léopoldville a deux représentants, un du Bas-Congo et un de Bandundu. Le Grand Kassai est presque absent parce que celui qui est là vient de Tchikapa.
Et c'est le Kassai.
J'ai dit le Grand Kassai. Il y a nuance. Le Grand Kassai n'est pas représenté et le Palou est absent. Alors que, il y a trois semaines, on parlait du Palou à la première vice-présidence. Heureusement, au Palou, il y a une discipline. Les gens se sont rangés sans rien dire. Mais en fait, le poste de premier vice-président était au Palou. Revenons maintenant. Maintenant, avec ce passage en force au niveau du Parlement, il ne serait pas étonnant.
Pourquoi passage en force ?
Mais passage en force en ce sens que on décide de tout. De l'Équateur.
On aura un Premier ministre PPRD ?
Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on ait un Premier ministre PPRD ?
Merci. Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La situation militaire en Nord Kivu est revenue à la normale après des désertions constatées dans les rangs des FRDC depuis le 31 mars dernier. Beaucoup d'officiers ayant déserté les FRDC dans les territoires de Rutshuru sont revenus au sein de l'armée nationale. Mais d'autres ont trouvé refuge en Ouganda et refusent de rentrer au pays. Suivons cet élément de Gisèle Cage depuis Goma.
Parmi les officiers retournés dans le rang des FARDC, il y a notamment le colonel Ndaï Saba jusqu'à sa défection vendredi dernier en charge des opérations et renseignements au sein du 2e secteur opérationnel. Il s'était rendu mardi à l'état-major du 2e secteur opérationnel à Rutshuru avec 47 militaires dont 2 colonels et 6 majors. Un autre rendu, c'est le colonel Mouiré du 8042e bataillon. Il avait fait défection il y a une semaine avec une trentaine d'hommes. Mouiré a finalement rendu ses armes au FARDC dimanche à Tongo, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. D'après des sources militaires, au moins 200 militaires FRDC ont regagné les rangs depuis cette semaine. Mais d'autres officiers déserteurs congolais ont trouvé refuge en Ouganda. Il s'agit de ceux-là qui ont attaqué dimanche la cité de Bunagana, environ 100 km au nord-est de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Une délégation d'officiers FRDC les a rencontrés hier à Kisoro en Ouganda pour les sensibiliser de retourner au pays, mais en vain. Un haut officier ougandais contacté par Radio Okapi confirme le fait. Il indique que ces officiers congolais présentent un certain nombre de revendications. Ils réclament notamment le paiement de leurs soldes, l'amélioration des conditions de leur vie, la reconnaissance de leur grade, pour ne citer que cela. Toutefois, ces responsables ougandais précisent que des démarches sont actuellement en cours avec le UNHCR en vue de leur rapatriement en RDC. Selon lui toujours, les 9 militaires sont présentement à l'état-major de l'armée ougandaise en Barara, 200 km de la frontière ougando-congolaise. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Transfèrement du général Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale CPI en sigle, Joseph Kabila réaffirme la position de la RDC. Dans une déclaration mercredi dernier au cours d'un échange avec les forces vives à Goma, le président de la République refuse de livrer ce général sous mandat de la CPI. Pour le chef de l'État congolais, Bosco Ntaganda peut être arrêté et jugé au pays. Joseph Kabila dit placer l'intérêt de toute la population congolaise et celle du Nord Kivu au premier plan. Le président Joseph Kabila, dans ses propos recueillis par Patrick Maki de Virunga Business Radio.
Il y a quelqu'un qu'on appelle général Bosco Ntaganda qui est sous mandat d'arrêt international. Chaque fois que j'arrive à Goma, c'est cette question qui m'est toujours posée. Pourquoi vous ne livrez pas Bosco à la CPI? Je vous répondais toujours de la même manière. Aujourd'hui, je vous réponds autrement. Mais ma décision n'a pas changé. Les crimes que Bosco Ntaganda a commis ici au pays ne nécessitent pas son transfèrement à la CPI. Nous-mêmes, nous pouvons l'arrêter car nous avons plus de 100 raisons de l'arrêter et le juger ici, au pays. On me dit, la communauté internationale va accentuer la pression sur nous. Écoutez, moi je ne travaille pas pour la communauté internationale, mais plutôt pour toute la population congolaise et celle du Nord Kivu. Concrètement, si l'indiscipline que nous sommes venus régler ici au Nord Kivu se poursuivait, nous aurons raison d'arrêter tout officier en commençant par Bosco Ntaganda.
Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et comment peut-on expliquer ces mouvements? En une semaine, des officiers font défection au nord et au sud Kivu, mouvement prémédité ou spontané?
Bon, vous savez que ce qui se passe en politique a très souvent des répercussions sur les masses ainsi que sur les hommes des troupes. Je ne voudrais pas dire que les officiers qui ont décidé de déserter les rangs sont téléguidés de Kinshasa par quelques politiciens, mais je dis tout simplement que lorsque la gestion de la chose publique ne permet, n'offre pas assez de possibilités à ceux qui œuvrent sous la bannière du règlement militaire ou tout ça, les conditions de vie décentes, il y a des raisons pour que les uns et les autres trouvent des issues pour pouvoir se sauver la vie. Et dans le cas d'espèce, est-ce qu'il s'agit ici d'une décision de ces officiers de se coaguler pour former un petit ferment de rébellion? Est-ce qu'il s'agit d'un début de résistance contre l'ordre institutionnel actuel? Est-ce qu'il s'agit d'un début de sentiment de mutinerie? Donc c'est autour de ça que le chef de l'État, je crois, est allé réfléchir en prenant langue avec les autorités qui sont sur place et même éventuellement en tâtant les terrains pour comprendre ce qui s'y passe. Les questions militaires font partie des dossiers sensibles. Les questions militaires, surtout quand il s'agit de l'armée, il s'agit de la protection du territoire national, ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, la souveraineté nationale, sont des questions sensibles. Très souvent, dans des États où la guerre a régné, il y a ce qu'on appelle la politique, par exemple en Corée du Nord, la politique de Songun, c'est la priorité aux affaires militaires. Donc les affaires militaires dans certains pays en guerre constituent même le plus grand ministère. Ici chez nous, on voit après le Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, parce que là on voit la sécurité et l'ordre public, mais ailleurs vous trouverez que c'est le ministère de la Défense qui vient en deuxième position. C'est comme quand vous allez dans le pays du Sahel, vous allez trouver que le ministère de l'Énergie devient le plus grand ministère, parce que là ce sont des pays désertiques. Donc ici chez nous, les questions militaires, moi je crois qu'elles sont importantes. Ce n'est pas à Kabila qu'il faut apprendre cela, surtout lorsqu'on est sorti d'un système plus 1 plus 4, où il y a eu des forces éparses incorporées dans ce qu'on appelle le mécanisme de brassage ou de mixage. C'est généralement des gens qu'on a recrutés, on les a juste initiés à des techniques de guerre, comment tirer, comment esquiver, comment faire ceci, des petites techniques, et plus tard on leur donne des grades. Et ce sont ces gens-là sur qui repose la confiance. Moi, j'ai dit tout simplement qu'il faut revenir à la question de la formation de l'armée nationale, réellement restructurée, intégrée, requinquée, formée. Il faut absolument que l'appui de l'ESSEC, et de l'EPOL ait une incidence, un impact immédiat sur le moral, sur la formation, sur le cursus de nos militaires.
Merci Benoît Kambéré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des magazines Les Échos de la région des Grands Lacs, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. J'ai posé la même question à Marcel Ngoï. Comment vous pouvez expliquer ces mouvements qui s'est fait au même moment dans deux provinces différentes, les officiers qui font défection au même moment? Est-ce que c'est un mouvement spontané ou c'était prémédité?
C'est un problème de politique de notre pays. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer après. Guy Maté, je suis fils de militaire, je suis enfant de militaire. Dans tous les camps militaires où je suis passé, Kitona, Mbanzangungu, Kankokolo, Kansayo de Bukavu, Kan Irebu, à Kapalata, Kisangani, il est écrit à l'entrée de chaque camp, la discipline est la mère des armées. Une armée qui n'a pas de discipline n'est pas une armée. Lors du point de presse dernier, j'ai posé la question à un officier sénégalais, et je sais les pratiques dans les autres armées, un militaire qui déserte, on ne le remet pas dans les rangs, surtout en temps de trouble. Quelqu'un ne peut pas faire défection aujourd'hui, une semaine après rentrer, et rentrer dans les rangs comme si de rien n'était.
Vous avez dit que c'était lié à la politique du pays.
Absolument.
Le lien,
c'est justement la discipline. On doit avoir une armée disciplinée. On doit avoir une armée où on punit les gens. Quelqu'un qui fait défection aujourd'hui, il part. Le lendemain, il rentre. Il est parti peut-être avec 14 armes. Il rentre avec 2 armes. Il rentre dans les rangs. Le lendemain, quelqu'un d'autre peut faire la même chose. Il faut que l'impunité cesse. Et dans un corps comme une armée, où il n'y a pas de discipline, c'est la vie du pays qui fout le camp.
Merci Jean-Baptiste Badera. Je rappelle que vous êtes directeur de canal Future Télévision Sud Kivu. Vous êtes à Bukavu. On a appris que depuis lundi dernier, certains de ces militaires qui ont fait défection commencent à se rendre. Et comment vous expliquez cette situation? Benoît Kambéré parle de l'indiscipline au sein de l'armée.
Ok, merci beaucoup Guy Maté pour la question, mais je pense que on est en train de voir les conséquences, mais on ne s'attaque pas trop aux causes de cette situation.
Quelles sont les causes?
C'est depuis presque 10 ans maintenant qu'on assiste à la même situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. En 2008, il y a eu, si je ne me trompe pas, cette conférence de Goma sur la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il y a des résultats sur cette conférence. À côté de cette conférence, il y a également d'autres négociations faites à Nairobi. Et là, on a encore arrêté d'autres dispositions par rapport à la même situation. Et les populations, la société civile et d'autres branches de droits humains, chaque fois, elles insistent sur la situation qui se vit actuellement dans cette partie du pays, au nord et au sud de Kivu, en rapport avec les groupes armés, mais également avec les militaires FARDC. On ne peut pas se voir la face du matin, il y a des conditions très très difficiles que traversent les militaires et FARDC aujourd'hui en démocratie du Congo. Il suffit de faire un tour dans différents camps pour voir les conditions presque inhumaines dans lesquelles vivent ces militaires. Et tout cela, on est en train de focaliser l'attention sur le CNDP, qui aujourd'hui n'est plus une branche armée, mais c'est devenu un parti politique, je crois. Et on oublie qu'il y a d'autres officiers et FARDC qui ont également fait défection. On ne fait pas trop attention à cette situation-là. Or, dans cette province du Sud Kivu, il y a la population qui est apeurée compte tenu de cette situation-là. Quand elle voit les militaires partir avec armes, bagages et munitions, elle se demande sur quelle planète elle est cette population. Et quand on dit que non, avec cette situation-là, il y a le CNDP qui est en train de trouver les troupes, ce n'est pas seulement la question du CNDP. C'est une question générale qu'on devait résoudre d'une façon générale. Il y a des compatriotes congolais qui ont donné des propositions pour mettre fin à cette situation, mais on ne semble pas les prendre en compte. Donc, au vu de la situation actuelle, en tout cas, il n'est pas certain que, même si aujourd'hui on a assisté à une sorte d'accalmie, mais le lendemain n'est pas toujours sûr dans cette province du Nord.
Merci. Merci Marcel Ngoï. Vous avez suivi la position du chef de l'État au sujet de Bosco Ntaganda. Il dit que s'il est arrêté, il ne va pas, il ne pourra pas les livrer à la justice internationale, mais plutôt les juger ici au pays. Comment vous analysez la position du chef de l'État?
Une position difficile. Difficile parce qu'il y a longtemps que ce monsieur est recherché. Position difficile parce qu'il est chef de l'État et le pays est signataire de ce qu'on appelle aujourd'hui les traités de...
Les statuts de Rome.
Alors il faut voir, il faut bien lire. Je ne sais pas s'il y a une disposition qui permet au pays, à un pays signataire de se mettre dans une position telle qu'il ne puisse pas respecter ou coopérer. Je ne sais pas. Mais moi j'ai dit, et c'est le conseil que je donne, qu'est-ce que ça coûte de libérer Bosco Ntaganda, qui, comme vous le savez, a été avec Thomas Lubanga. Il a été avec Nkunda Batware. Qu'est-ce que ça coûte de les libérer? Moi, je pense que le chef de l'État se met dans une position délicate par rapport à la justice internationale.
La position du gouvernement congolais a toujours été celle de vouloir privilégier paix, la stabilité.
Mais voici le paradoxe. Pourquoi on ne pouvait pas protéger Bemba? Pourquoi on ne pouvait pas protéger Thomas Lubanga et consorts? C'est parce qu'on a voulu respecter la volonté ou les procédures de la Cour pénale internationale. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Mathieu Gujolo? On pouvait le faire. Pourquoi, pour ce qui concerne Bosco, la position du chef de l'État, la position de la République n'avance-t-elle pas? Plus d'une fois, on lui a posé cette question à Goma, mais ici aussi, dans des conférences de presse, on lui a posé cette question-là plus d'une fois. Moi, j'ai dit ceci, c'est un conseil. Il ne faut pas qu'on perde le temps. Le chef de l'État a beaucoup de choses à faire. Depuis qu'il a été élu, voici plus de 120 jours, le pays tourne sans gouvernement. On est dans le régime des intérimaires. Et le temps lui est compté, c'est le dernier mandat constitutionnellement parlant. Donc le chef de l'État a intérêt à coopérer, à trouver des issues, des brèches à exploiter pour négocier à la fois la paix et en même temps et voir dans quelle mesure coopérer avec la justice internationale.
Benoît Kamere, le chef de l'État, dit si Bosco Ntaganda, j'ai tout le moyen de l'arrêter, si je l'arrête aujourd'hui, je ne vais pas le livrer à la justice internationale, il sera jugé au pays.
Si il l'arrête, il est déjà arrêté? Mais ça fait si... Je ne sais pas. Si c'est depuis 2006 qu'il y a un mandat d'arrêt contre... Et le chef de l'État a dit il a mille et une raisons, hein, quand il a parlé en swahili, il a beaucoup de raisons de l'arrêter. Si il l'arrête aujourd'hui.
Mais s'il estime qu'en l'arrêtant aujourd'hui, cela peut provoquer une nouvelle guerre au Kivu.
Pourquoi cela provoquerait une nouvelle guerre au Kivu?
Parce que Ntaganda aurait des gens, des militaires qui sont fidèles à lui au sein des FRDC à l'est du pays.
Tu estimes qu'une armée nationale sérieuse peut avoir des officiers qui ont des gens qui ont ces gens dans l'armée?
Ça, c'est les analystes qui le disent.
Une armée est républicaine. Une armée obéit à un chef.
Alors, qu'est-ce que vous proposez pour pacifier cette partie du pays?
Qu'on ait une armée républicaine.
Jean-Baptiste Badera, vos propositions pour pacifier cette partie du pays, l'est du pays?
L'est du pays, moi, je pense que tout compte fait, hein, Guy Maté, ça doit passer par le dialogue. Parce qu'il y a un sérieux problème dans l'est du pays. Mais on semble résoudre ça comme une sorte de saupoudrage. On oublie les vrais problèmes. On ne peut pas dire que non, il faut sanctionner, il faut punir, il faut arrêter. Guy Maté, vous êtes journaliste. Hein, je pense que vous avez la même occasion que les confrères journalistes de circuler dans le pays. Et même à Kinshasa, où souvent nous séjournons, les militaires vivent dans des conditions très très difficiles.
Vous l'avez dit.
Moi, je pense que la première chose serait de passer par la résolution des problèmes auxquels font face les militaires. Et deuxièmement, il y a vraiment des aspects politiques qu'il faut régler dans cette partie du pays. Parce que quand le chef de l'État a parlé à l'hôtel Iwissi, comme l'a dit mon confrère Benoît Kamere, il a aussi mis en garde les différentes communautés qui, à chaque fois qu'il y a des problèmes militaires, s'immiscent dans cette question. Et la chef a été très stricte, elle a dit non. C'est une question que les communautés demain ne puissent s'immiscer dans les affaires militaires.
Merci.
Et condamner parce qu'il y a tel ou tel cas. Je pense que c'est un problème profond qui résout en profondeur au lieu de se limiter à des résolutions qui sont juste superficielles et qui, en tout cas, ne résolvent en rien la question militaire la question de la sécurité. Parce qu'au fait, ce sont les militaires hein, qui doivent protéger le territoire.
Merci.
C'est eux qui doivent sécuriser la population.
Merci,
mais malheureusement, compte tenu de certains préalables, hein, cela n'est pas le cas du matin.
Merci, c'est la fin de cette émission. Héritier Sidiakala était à la technique, Kellen Kouté à la réalisation sous la supervision de Ben Kabamba, devant tes micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.